Gloire à Dieu, nous continuons notre étude sur le livre de Cantiques. Le livre de Cantiques des Cantiques. Et le but de ce livre, c'est de nous amener à une relation beaucoup plus profonde avec le Seigneur, beaucoup plus intime, beaucoup plus simple aussi, aller plus loin qu'une relation légale entre un patron et son ouvrier, son employé, aller plus loin même qu'une relation entre amis, mais aller plus loin puisque il y a des choses que nous découvrons ici que même entre amis, ça ne se fait pas. Donc c'est un amour beaucoup plus profond et beaucoup plus sûr. Parce que quand c'est profond, c'est aussi très sûr. Or, nous avons besoin d'un amour sûr pour pouvoir mener une vie chrétienne heureuse et stable. Nous avons besoin d'être rassurés dans l'amour. Il y a des gens qui, tous les mois, une fois par mois, ils se posent des questions. Est-ce que Dieu les aime? Pourtant, ils sont chrétiens. Donc, c'est pour dire que quand on est sûr de l'amour de Dieu, on est heureux vraiment. Sinon, ça sera toujours des remises en question de cet amour, donc de l'instabilité, de la souffrance et qui va se répercuter sur nos relations avec les autres également. Mais quand on est sûr de l'amour, il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Donc quand on est sûr de l'amour, on est aussi bien, on est tranquille, comme un bébé entre les bras de sa mère, dans les bras de sa mère. Nous continuons avec le chapitre 4 et le dernier verset, 16 je crois, et nous allons nous arrêter au premier verset du chapitre 5.
Cantique, chapitre 4, verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents.
Voilà. Donc là, elle en appelle à ce que le vent vienne souffler et pour que le bien-aimé puisse bénéficier des fruits du jardin. Ah oui, on n'a pas lu le premier verset du chapitre 5. On lit ça en même temps.
J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait.
Voilà, donc là, il est question de toutes les conditions agréables pour que le bien-aimé se sente bien. C'est un appel à ce que nous disposions nos cœurs, qui est comme un jardin pour Dieu, que nos cœurs aient des pensées du Seigneur, nos cœurs aient des pensées de vérité, des intentions de bonté, des intentions d'obéir à Dieu, il faut disposer nos cœurs à recevoir Dieu. Donc c'est ça le jardin dont il est question là. C'est l'image de ce jardin-là. Disposer nos cœurs à ce que Dieu y habite avec joie. Voilà, parce que Dieu, ce n'est pas une salle ni une place extraordinaire qui va donner la joie à Dieu. C'est vraiment nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui sont son jardin. Donc c'est un appel à disposer voilà, le cœur à des choses liées à l'amour et à la vérité, de sorte que Dieu, qui aime cela, puisse s'en réjouir. Et aussi disposer le cœur à la foi, avoir un cœur qui a la foi, comme c'est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, nous sommes agréables à Dieu quand nous avons foi en lui. C'est là que nous l'attirons, c'est là qu'il peut demeurer heureux en nous. Voilà, c'est cela. Et nous arrivons donc au verset 2.
Manger, il restait...
Voilà, manger, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Ok, nous passons donc au verset 2.
J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de ma main a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Pardon. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour?
Voilà. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc, aujourd'hui, notre titre, c'est des circonstances difficiles, des expériences difficiles. Donc, ça peut arriver que nous nous endormions. Nous avons la parabole des vierges sages et des vierges folles qui nous montrent que les vierges peuvent s'endormir. Même les vrais chrétiens peuvent s'endormir. Ça peut arriver. Et là, elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Mais même quand les chrétiens peuvent s'endormir, peuvent connaître une baisse dans leur attachement à Dieu, dans leur entrain pour Dieu, ils ont quand même la pensée de Dieu dans leur cœur. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Le chrétien a toujours l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit est attristé, mais il est toujours présent. Il est là et il fait penser toujours à Dieu. Malgré le temps d'endormissement, le chrétien a un souvenir, il pense à Dieu quand même, mais il est parfois dépassé par ses propres erreurs qu'il a faites et qui l'a conduit à cet endormissement-là. Il est dépassé par les conséquences de tout ça. Mais il pense, il veille, il a le souvenir de Dieu. Et ça peut arriver, comme là c'est arrivé, mais nous voyons là la fidélité du bien-aimé qui vient frapper et qui vient frapper quand même à la porte. Le Seigneur le dit dans Apocalypse, hein, vous vous souvenez du passage 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Voilà, » Mais ce n'est pas une phrase adressée aux païens, puisque nous avons l'habitude de l'utiliser pour les païens. Mais cette phrase, elle est adressée aux chrétiens, puisque c'est adressé à une église, à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Donc, il peut arriver que nous tombions dans un sommeil spirituel qui fasse que Dieu est comme loin, il est dehors, mais lui, dans sa fidélité, dans son amour, parce qu'il est écrit que même si les hommes deviennent infidèles, Dieu demeure fidèle. Dans sa fidélité, il vient quand même à nous, il vient frapper. Et là, il vient frapper en parlant, en expliquant toutes les souffrances. Déjà, il dit, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Donc, ouvre-moi. Il continue toujours à nous désirer. C'est fort. Malgré un comportement d'endormissement, Dieu nous aime toujours. Il veut nous récupérer. Nous avons encore une autre histoire de la Bible qui nous confirme cela. C'est dans Luc 15, donc la parabole de l'histoire de l'enfant perdu. Malgré le fait qu'il a fait un outrage monstrueux, celui de réclamer l'héritage avant la mort du papa, il est parti, il a pris presque la moitié de la richesse familiale à lui tout seul. Il est parti avec et il est parti dilapider tout cela. Mais malgré ça, le papa l'attendait avec amour. Voilà, c'est toutes les histoires de la Bible se confirment, se corroborent. Voilà, c'est l'amour de Dieu qui est constant malgré l'infidélité des humains, malgré la trahison des humains. L'amour de Dieu est constant. Bien-aimés, tout ce que nous faisons dans Cantique des Cantiques peut donner l'impression, hein, peut donner l'impression que c'est trop facile. Mais c'est facile, bien-aimés. Il faut en être conscient, parce que beaucoup de gens se perdent parce qu'ils pensent que c'est difficile, la relation avec Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, ils se disent, je n'y arriverai pas, je demeure dans le mal. Parce que sans cesse, ils se mettent une pression en se disant, ça ne peut pas être trop facile comme ça. Mais c'est facile. Mais ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été, puisque lui, il est resté sous la pluie, dans la rosée là. Il est en train d'exposer ses souffrances. Ça fait un moment que je t'attends et la pluie est tombée sur moi. C'est la voix de mon bien-aimé. Ouvre-moi ma sœur, ma colombe, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Donc c'est quelqu'un qui souffre de nous voir dans un état d'endormissement. Donc il en souffre, il a souffert à la croix pour nous récupérer. Il expose ses souffrances à sa bien-aimée pour dire... Je tiens à toi, vois combien je suis resté en train de veiller pendant toute une nuit, sous la pluie, dans un temps d'humidité, tout ça parce que je tiens à toi. C'est ce que Dieu nous dit. Certains trouveront ça trop facile, mais c'est ça l'amour. L'amour, quand il se manifeste, il semble... privilégier la personne qui est l'objet de cet amour-là. C'est l'amour, c'est comme ça. Nous devons l'accepter si nous voulons être stables dans notre relation avec Dieu. Si nous pensons que l'amour de Dieu fluctue en fonction de nous, en fonction de notre comportement, nous serons aussi instables. Et il faut savoir que nous avons un grand maître accusateur qui trouvera toujours une faute en nous. Et comme nous voulons mériter cet amour, nous allons approuver les accusations du diable pour chercher à nous perfectionner par nous-mêmes et nous sentir mériter l'amour de Dieu et tomber dans le fossé. C'est comme ça la stratégie du diable. Nous devons revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous présente tous les exemples qui montrent que l'amour de Dieu est constant. Voilà. Il est stable, il n'est pas quelque chose qui bouge en fonction des situations. Jésus, même quand Judas vient le trahir, il appelle mon ami, fais ce que tu as à faire. Donc ça, Jésus montre par là que lui, dans son cœur, il gardait à l'esprit que Judas est son ami. Même si la réalité était que c'était un traître, mais lui, il appelle mon ami, fais ce que tu as à faire. Ce n'est pas ironique. C'est le cœur de Dieu qui est comme ça. Le cœur d'amour constant. C'est ça la différence. Nous bougeons parfois en fonction des situations et des circonstances concernant notre affection vis-à-vis de nos pères. Mais Dieu, lui, ne bouge pas. 1 Jean 4, 9 nous dit ceci. Celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Je crois 1 Jean 4, 8. Car Dieu est amour. C'est tout simplement sa nature. Donc mais ça donne l'impression que là, c'est trop facile. Donc ça va encourager les gens à se dire, je pêche, mais ce n'est pas grave, Dieu m'aime. C'est faux. Ça va plutôt encourager les gens à vivre dans un amour total avec Dieu, sans chercher à être proche de Dieu légalement, par pression, mais par amour. Et ça, c'est plus fort, c'est puissant. C'est ça... Bien-aimés, souvenons-nous que c'est l'amour qui nous a sauvés, c'est grâce à l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Eh bien, ne pensez pas bâtir votre relation avec Dieu sous un autre régime que le régime de l'amour. Voilà. Et il rappelle ses souffrances, mais qu'est-ce que nous constatons? La bien-aimée, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? C'est-à-dire que, donc, elle est en pyjama. Donc, en quelque sorte, parlons en termes modernes, elle est en pyjama. Attends, je ne veux pas me mettre un vêtement pour aller ouvrir la porte. Voilà. J'ai ôté déjà ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds avant de monter sur le lit. On se met propre. Mais j'ai déjà lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Donc, s'il faut aller ouvrir encore au bien-aimé, ça va salir. Je veux me salir. Et donc, elle commence à créer des difficultés pour revoir le bien-aimé. Et c'est l'état de beaucoup de personnes qui, dans l'endormissement spirituel, dans l'assoupissement spirituel, lorsque nous les abordons pour leur présenter Jésus qui les cherche, qui a beaucoup d'amour pour eux, ils trouvent toutes sortes d'arguments pour dire « Mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas à cause de ceci, je ne peux pas à cause de cela ». Et beaucoup de chrétiens sombres restent des années parfois dans cet état-là où ils ne veulent pas renouer avec le Seigneur selon le premier amour. Souvenons-nous, voilà, tout ce que nous disons là dans Cantique des Cantiques se trouve déjà dans d'autres passages. Dans Apocalypse, chapitre 2, le Seigneur parle à l'église d'Éphèse et dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi, pratique tes premières œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà, nous sommes dans cette situation-là où certains chrétiens commencent à vivre, ils vivent selon leur propre logique. Il n'y a plus la simplicité, l'enfance du premier amour. Il n'y a plus ça. C'est la logique de l'homme, de la femme qui réfléchit selon ses dogmes, selon ses lois propres, qui ne sont et agit dans une relation avec Dieu selon ces lois-là. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, c'est pas comme ça. Retourne au premier amour dans l'innocence, dans la foi des enfants, où on embrasse Dieu, on suit Dieu comme un fou, on ne calcule pas avec Dieu, où on est dans la joie tout le temps. Mais beaucoup ont perdu cette joie-là. Ils ont perdu cet amour parce qu'avec le temps, ils ont sombré dans une forme de légalisme, dans une forme de logique. Ils ont mis beaucoup de logique humaine dans leur marche. Et ça a comme fermé la porte à Dieu. Et le Seigneur le dit d'Apocalypse 3, je frappe à la porte, Apocalypse 3, 20. Et il dit dans Apocalypse 2, à l'église d'Éphèse, retourne au premier amour. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre là, où ben, la bien-aimée commence à dire, mais j'ai déjà mis le pyjama, je ne vais pas encore m'habiller pour aller l'ouvrir. Mes pieds sont déjà propres, si je descends du lit pour aller l'ouvrir, mes pieds vont se salir. Ou la personne commence à percevoir Dieu comme un fardeau. Vous voyez, c'est ça, certains chrétiens, les réunions de prière deviennent un fardeau pour eux. Là, c'est déjà mauvais signe. C'est un problème. L'engagement pour Dieu, le service pour Dieu, la louange, tout devient lourd. Là, il y a un souci. Là, c'est-à-dire qu'ils maintiennent la porte fermée aux bien-aimés. Prions pour nous-mêmes, bien-aimés, que lorsque nous sentons que les temps de louange, les temps de prière deviennent un fardeau, disons-nous qu'il y a un souci. Soit nous sommes dans un état où nous fouillons Dieu inconsciemment parce que quelque part nous traînons dans certains péchés plus ou moins conscients, ou parfois ce ne sont pas des péchés mais c'est des attitudes que nous savons pas trop agréables à Dieu. Voilà. Et, et quand viennent les moments de prière, de louange, de communion fraternelle, nous ne nous sentons pas à l'aise au fond de nous. C'est comme si nous fouillions Dieu. Donc, quand ça arrive comme ça, disons au Seigneur, comme dans le psaume 139, « Seigneur, éprouve mon cœur, regarde les choses qui ne vont pas, qui font qu'aujourd'hui, prier devient lourd, marcher avec toi, voir les frères et sœurs, ça devient lourd. Tout ce qui te concerne, c'est comme si je te fuis comme Adam et Ève au jardin d'Éden, on cherchait à fuir. Voilà, parlons au Seigneur. C'est le cas là, ça devient lourd. Pour ouvrir la porte à son bien-aimé, ça devient lourd. Pour relaver ses pieds, ça devient lourd. Et c'est cela. Les choses données aux gens, ça devient lourd. Faire ceci, ça devient lourd. Et posons-nous des questions à ce moment-là. Et le bien-aimé va comme vouloir même forcer. Il passe la main. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Donc Dieu va vouloir quand même forcer. Parfois, il y a des circonstances qu'au fond de nous, alors que nous sommes dans l'égarement, nous sommes conscients que c'est Dieu qui a forcé cette circonstance parce qu'il voulait une fois encore, il m'a piégé parce qu'il veut de moi encore. Combien de païens, enfin combien de chrétiens refroidis ne vous témoigneront-ils pas ce que je suis en train de vous dire? Là, je crois qu'une fois de plus, Dieu a voulu me coincer. Mais est-ce qu'ils ouvrent pour autant la porte? Pas forcément. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent « Ah là, telle circonstance, c'est Dieu qui l'a permise, parce qu'il voulait, il veut encore me reprendre. » Et les gens parfois ferment la porte. J'aime la circonstance. Parfois, c'est par la force physique que Dieu passe. Hein, donc, il passe la main à travers la fenêtre. Je me souviens, mais lui, il avait ouvert la porte. Le titre de la pensée du jour, je crois que c'est la bonne semence, c'est « Délivrer de l'opium ». Ce Vietnamien ou Thaïlandais qui était... Il faut que je relise ça parce que j'ai oublié même son prénom. Il s'est converti, mais il était esclave avant de la conversion, esclave de l'opium. Et vous savez, ce ne sont pas des choses faciles à lâcher. Et il rechutait. Il lui arrivait de rechuter. Et à chaque fois, il était mal. Mais malgré le fait d'être mal, il rechute. Il lui arrivait encore de rechuter. Et une fois, il a dit, Seigneur, tu as dit dans Luc 4 que tu m'as libéré. Tu es venu pour libérer les captifs. Je crois en ces délivrances. Et il a tenu peut-être quelques jours et puis une nuit, l'envie est revenue. Il a commencé à lutter, mais il y a une voix qui disait, une petite goutte d'opium, une dernière cigarette d'opium, quoi. Et puis tu reviendras à Dieu. Il luttait, il n'était pas bien. Il s'est dit, bon, là, Dieu me comprendra, je sors quand même. Il est sorti, c'était la nuit, il est sorti pour aller chercher à acheter de l'opium. Et à l'époque, il y avait des mouvements dans le pays et il y avait un couvre-feu. Et sur le chemin, il rencontre un soldat qui lui dit, « Vous, vous faites quoi à cette heure, c'est le couvre-feu, rentrez chez vous !» Et lui-même, il écrit dans ce témoignage, il dit, Dieu a envoyé un soldat pour m'arrêter sur le chemin. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens qui sont dans une forme de froideur avec Dieu, tiédeur. Ça arrive plein de circonstances où même Dieu s'impose physiquement, comme là, le soldat le renvoie. Et depuis ce jour-là, il n'avait plus touché à l'opium. Ça a été toujours une lutte. Mais ce jour-là était un jour très important. Et c'est de ce jour qu'il parle pour dire, Dieu m'a délivré de l'opium jusqu'à m'envoyer un soldat pour m'empêcher d'aller acheter l'opium. Voilà. Tous les chrétiens qui sont en temps difficile vous témoigneront que Dieu les visite comme nous sommes en train de lire. Là. Jusque parfois, à passer la main par la fenêtre. Mais il faudrait à un moment donné ouvrir son cœur à Dieu comme Apocalypse 3:20 nous exhorte, le laisser entrer, vivre à nouveau une vie d'amour avec lui. Et il nous est dit, Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, mais de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Alors, moi, je suis une fois de plus dépassé, puisque quelqu'un qui se comporte mal, mais il y a la myrrhe qui dégoûte, qui coule de ses mains. Vous voyez, là, ce n'est pas notre avis, ce que nous sommes en train de lire là. Nous sommes en train de lire l'avis de Dieu sur un enfant. Une fois de plus, ça va paraître trop facile. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Voilà. Comme ça a été très dur pour le fils aîné, que l'on fasse une fête pour son frère débauché et qui a dilapidé tout le bien de la famille. C'était très dur. Certains chrétiens le perçoivent mal, ce que nous sommes en train de lire. Et dans leur tête, ils se disent, ça va encourager les gens à pécher, mais vous n'êtes pas à la place de Dieu. C'est Dieu qui dirige son monde. C'est Dieu qui a son système. Son système, c'est l'amour. Son système, c'est la foi. Vouloir lui imposer notre système, ça ne marchera pas. Voilà. Nous ne sommes pas à sa place. Je sais que ça paraît trop facile pour beaucoup, mais Dieu n'a jamais dit que c'était difficile. Voilà. Il a dit qu'il nous aime. Voilà. C'est cela. Et là, de quelqu'un que nous ne pouvons mal juger, il nous est dit que la myrrhe coule. C'est une façon de dire que de nous montrer que Dieu voit toujours ainsi cette personne-là. Ça ne veut pas dire que les péchés de la personne sont cachés. L'Esprit Saint voit tout cela. Mais Dieu a un double regard. Le regard de vérité pure où il voit les péchés des gens, mais là aussi le regard d'amour où il les voit comme tel qu'il veut qu'ils soient, tel qu'il va les transformer. Il a les deux. Comme un parent. Le parent, il voit, il sait bien que son enfant se comporte mal, mais ça ne change pas son amour pour son enfant. Sauf exception, bien sûr. Mais en général, c'est comme ça. L'amour ne calcule pas. Et là, ce que nous lisons, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime, que nous ne méritons pas. Qui est illogique? Je l'admets, mais c'est comme ça. Voilà, c'est cela. Comme Pierre avait dit à Jésus, c'est illogique que tu me demandes de jeter le filet. Mais puisque c'est ton ordre, je jette le filet. Voilà, c'est cela. Et j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Voilà, ils m'ont blessé. Revenons sur le fait que le bien-aimé, cette fois-ci, ne répond plus. Il ne répond plus. C'est ce qui arrive à un moment donné. Quand Dieu nous cherche, qu'on résiste à un moment donné, et s'éclipse, pas méchamment, pas de colère. Il s'éclipse parce qu'il veut maintenant que l'amour qu'il a semé en nous cherchant commence à produire. C'est-à-dire, ça a pris le temps d'être semé en nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est nous qui commençons à le chercher. Et c'est ainsi que la boucle va être bouclée. Au départ, c'est lui qui nous cherche. En nous cherchant, il a semé un amour en nous qui va faire que c'est nous qui allons le chercher après. Ce que je dis là, nous tous, nous l'avons vécu. Dieu qui nous cherche, on fait le fier, on fait l'intellectuel, on fait ceci, on émet des raisonnements, puis à un moment, on sent en nous une flamme commencer à monter vers lui. Et c'est nous qui commençons à le chercher. J'ai souvent raconté, bon, ça, c'est pas un chrétien, mais c'est à peu près pareil. Cet homme qui avait déchiré le tract qu'on lui avait donné, arrivé chez lui, il voit un bout de papier tomber. Il regarde, c'était un reste du tract qui était sur son épaule quand il a épousseté le manteau. Quand il regarde, il voit cet écrit, « Et Jésus dit », juste ce mot-là, « Et Jésus dit ». Eh bien, il commença à chercher à savoir qu'est-ce que Jésus avait dit. Pourtant, lui, Jésus l'a cherché. au moment de la distribution des tracts. Les bien-aimés sont venus avec sourire lui donner le tract. Mais il leur a mal parlé et il a déchiré devant eux le tract. Mais arrivé chez lui, c'est lui qui commence à chercher. Jésus a dit quoi? Et Jésus dit, il a dit quoi finalement cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Toute la nuit, il n'a pas dormi et le lendemain, vers les mêmes heures, il est parti voir si les bien-aimés distribuaient encore le tract. Et quand on lui a redonné, cette fois-ci, il a lu et il s'est converti. Vous voyez, c'est ce qu'il se passe là. Dieu, il nous cherche. Mais en nous cherchant, il sème quelque chose. Un amour. Après, il s'éclipse pour attendre que cet amour-là se réveille en nous et nous attire à lui de sorte que il y a vraiment une vraie relation d'amour réciproque, pas une relation de client. C'est pourquoi bien aimé, de client et du commerçant. C'est pourquoi je dis toujours, il ne faut pas que nous forcions dans l'évangélisation, il ne faut pas que nous cherchions à nous imposer et exagérer en faisant comme si Dieu cherche des clients. Nous devons présenter l'amour de Dieu, l'évangile de Dieu, du Seigneur. Et c'est cette semence-là qui va réveiller quelque chose. Il ne faut pas, comme certains font, ils mettent un encadrement dans leur bâtiment qu'on appelle l'église. Ils mettent un encadrement pour attirer les gens et les garder en mettant en place un mécanisme, un système d'attraction pour garder les gens. Non, on n'a pas à faire ça. On doit semer dans l'amour, dans la vérité, dans la parole, et attendre que cette semence ramène les gens d'elle-même à Dieu. C'est ce qui se passe là. Maintenant, c'est la bien-aimée qui commence à chercher le bien-aimé, alors qu'elle avait résisté quand le bien-aimé l'a cherché. C'est ce qui arrive. Donc, quand nous voyons des gens en temps de baisse avec Dieu, faire les fiers, faire des complications, n'insistons pas. Laissons-nous utiliser par Dieu dans ce que nous pouvons dire. N'allons pas avec une logique humaine de penser qu'à force de paroles, on convaincra quelqu'un. Non, nous devons faire ce qu'il faut comme le bien-aimé vient de faire là. Il a tenté même d'ouvrir la porte, il y a eu résistance, il s'est éloigné, il a disparu. Et c'est la bien-aimée qui commence à chercher. Et dans son égarement, elle cherche parfois mal. C'est là qu'elle se retrouve devant des préfets de discipline, des gens qui vont la redresser, comme nous venons de lire. Elle se fait frapper dans sa recherche. Ce qui montre encore quand même sa soif à elle aussi, maintenant qui se manifeste, au point qu'elle se fait frapper dans sa recherche. Mais on lui enlève même le voile. C'est une façon de chercher son identité, qui elle est. Donc là, c'est Dieu qui permet que, pendant que toi maintenant tu commences à le chercher, eh bien, c'est des tribulations qui s'abattent sur toi, bien, c'est afin qu'on voit ton identité. Est-ce que tu es vraiment la bien-aimée? Est-ce que tu es vraiment celle qui cherche Dieu? Souvent, les gens disent, mais qui est ce Dieu-là? Pendant que je le cherche, j'ai encore des difficultés. Et parfois, nous, les chrétiens qui sommes à l'extérieur de la personne, nous nous disons, mais pourtant, nous avons parlé de Dieu à la personne. Le Seigneur, au lieu de la guérir, le Seigneur, au lieu de lui faciliter la tâche, le Seigneur ne fait pas tout ça, mais la personne ne va pas venir. C'est ce que nous pensons. Le Seigneur, lui, sait ce qu'il a déjà semé dans le cœur de cette personne-là. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les souffrances, parfois moi j'entends des témoignages, je me dis, mais c'est pas possible. Cette personne a tenu quand même venir à Dieu, malgré tout ce qu'elle a subi comme souffrance, malgré ses prières. Il y a des gens qui prient, rien ne se passe, mais elles viennent quand même à Dieu. Elles reviennent à Dieu, parce que c'est la semence de l'amour qui est en train de travailler. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de vouloir embellir la vie, mettre de l'agréable dans la vie des gens par forcing pour les convaincre que Dieu les aime. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Après s'être manifesté, il peut s'éclipser et même que quand la personne cherche, il y a des difficultés, mais Dieu sait que la semence va travailler jusqu'à la rencontre. Et elle dit, je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Amen. Là maintenant, l'amour est réciproque. Le feu, la flamme est réciproque. Mais Dieu sait comment travailler tout cela. C'est ça qui est... C'est expérience difficile, mais qui aboutissent à un amour réciproque. Oui.
En fait, ce que tu dis là, en fait, c'est quand on a affaire à quelqu'un qui doit faire sa part, nous, on doit laisser la personne faire la démarche. Comme le Seigneur lui-même, il a dit aux gens, viens, suis-moi. Il n'a pas été les chercher. Les gens, ils devaient le suivre ou ne pas le suivre. C'était leur choix. On n'a pas à forcer les gens.
Ah, on n'a pas à forcer, mais on peut être utilisé pour parler, pour exhorter.
Oui, on parle, mais après, une fois qu'on a parlé, il faut que les personnes fassent leur part, leur démarche à elles.
Voilà.
Pour qu'elles manifestent leur volonté.
Voilà, c'est ça. Oui ?
Question Internet. À quel moment on passe de l'endormissement à l'éloignement ?
Bon, c'est déjà l'éloignement quand on est endormi. Hein. Donc, c'est déjà l'éloignement. Maintenant, les degrés ne sont pas les mêmes dans cet éloignement.
Le verset 7 peut être appuyé par 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Ben, le verset 7 ne parle pas de tristesse, là. Voilà.
Et le verset 9, ce n'est pas aussi la question que le monde pose à l'Église quand l'incrédule pose à un vrai enfant de Dieu, qu'attend Jésus de plus que les autres prophètes ?
Voilà, on va en parler, donc nous ne sommes pas encore au verset 9.
Voilà. Comment manifester aussi la nature de Dieu, aimer malgré les trahisons et méchancetés des autres ?
En pensant que soi-même nous avons bénéficié de cet amour-là. Parce que si Dieu agissait tel que nous pensons agir pour les autres, nous-mêmes nous serions perdus. Donc ayant bénéficié de cela, nous devons penser que les autres aussi doivent bénéficier de la même chose. C'est ce qui est dit dans Marc 11, 25, quand le Seigneur dit « Si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas ». Donc il veut dire par là, que vous avez bénéficié du système du pardon pour que vous ayez la vie. Alors, et vous voulez refuser ce pardon à quelqu'un d'autre, c'est impensable. C'est que je vous prive aussi, moi aussi, de mon pardon. Voilà. Donc, en y pensant, c'est important. Et dans Luc 18, il nous est donné une histoire de quelqu'un qui n'avait pas pardonné. Et le Seigneur dit que lui, quand on l'a attrapé, c'était grave pour lui. Oui. Matthieu 18, pardon.
Comment agir quand on sent un refroidissement dans l'amour qu'on porte à notre conjoint ou conjointe, notamment quand il n'y a pas d'amélioration dans une situation malgré le fait d'en parler, de discuter?
La considérer tel que Jésus le considère ou la considère, comme on vient de dire là. Au fait, nous, en tant qu'humains, nous lions parfois notre amour au bon comportement de l'autre. Mais c'est pas biblique. Le véritable amour ne doit pas dépendre du bon comportement de l'autre. Voilà, nous devons changer dans notre conception de l'amour. Et nous devons entrer dans le même amour que le bien-aimé qui est cité ici, qui voit de la mire couler de quelqu'un qui lui refuse d'entrer, quoi. Voilà, c'est qui dit ma sœur m'a parfaite. Voilà. Alors que nous savons entre nous que voilà, nous ne sommes pas parfaits. Mais voilà, c'est comme ça que nous devons voir aussi les autres. Il est écrit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Que penses-tu donc de la prière de repentance que certains pasteurs font après les cultes ? N'est-ce pas là parfois du forcing ?
Et quelle prière de repentance ?
Pendant les cultes, apparemment, il y a des pasteurs qui invitent les gens à la repentance, je ne sais pas. Là, c'est la question qui est posée.
Bon, ça dépend, parce qu'ils peuvent être conduits aussi par le Saint-Esprit. C'est au cas par cas, quoi. Je ne peux pas donner une réponse pour toutes ces prières-là. Il y a des gens qui peuvent exagérer, que ça devient de la chair, mais il y a des gens aussi qui le font conduit par le Saint-Esprit, parce que parfois, les gens ont besoin d'aide pour aller plus loin avec Dieu. Voilà. Ok, donc nous allons au verset 9.
Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Ô la plus belle des femmes, car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Pourquoi tu nous conjures ainsi?
Voilà, cette question-là, si elle ne jaillit pas à un certain moment de notre entourage, nous pouvons nous poser des questions sur notre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu doit être dans la même passion que nous sommes en train de lire là, de sorte que l'entourage va trouver ça exagéré. Comme nous sommes nous-mêmes en train de le dire, c'est inconcevable humainement cet amour, mais c'est l'amour que Dieu veut que nous ayons avec lui. C'est cet amour-là qui ne calcule pas, qui est à fond. Nous voyons le bien-aimé qui vient à fond, qui est trempé la nuit. Ça nous rappelle toute l'œuvre de la croix de Jésus pour des humains sales que nous étions. Parce que Romains 5 dit que l'amour de Dieu, verset 8, l'amour de Dieu est manifesté en ceci que lorsque nous étions pécheurs, j'aime la version de Parole Vivante qui dit, lorsque nous étions ses ennemis, Christ a donné sa vie pour nous. Alors vous voyez, c'est le niveau. Il donne sa vie pour des ennemis. C'est cette dimension-là d'amour qui va faire que, finalement, nous ne nous calculions pas et nous nous lancions pleinement. C'est comme ça que nous devons concevoir désormais l'amour. Et quand nous sommes dans cela, les gens vont être dépassés par un tel amour, un tel engagement. Ils vont dire, mais ils vont poser la question, cette question-là, mais c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Comme l'histoire que je raconte de ce monsieur qui est revenu alors qu'on l'avait pillé par les voleurs. Il risquait de se faire tuer par des brigands. Je dis même pas voleurs, mais des brigands, c'est-à-dire des gens qui pouvaient le tuer. Ben, ils lui ont laissé la vie sauve, mais ils l'ont dépouillé. Mais quand il a fait un certain nombre de mètres, il s'est dit en lui-même, j'ai menti, je n'ai pas montré tout l'argent que j'avais. Il est retourné voir les brigands pour leur dire, j'avais une poche secrète, je vous ai menti en disant que je n'avais plus rien. Alors si vous voulez encore prendre le reste là, de mon trésor, prenez-le. Les brigands ont dit, monsieur, vous êtes fou, il faut que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous... Parce qu'en revenant comme ça, nous pouvons vous tuer. Oui, mais j'avais menti, je devais me repentir auprès de vous. Parce que je suis chrétien. Les voleurs ont dit, assieds-toi, explique-nous c'est qui Jésus. Ça veut dire quoi tout ça là? Il a expliqué l'évangile. Tous ils se sont convertis. C'était toute la nuit. Hein. Ils l'ont bloqué maintenant, pas pour le tuer, mais pour qu'ils comprennent comment quelqu'un à qui on a laissé la vie sauve. Quelqu'un qui a pu sauver ses pièces d'or. Donc, il a lâché les autres choses moins chères. Il les a lâchées. Il a sauvé ses pièces d'or. Qui revient pour nous donner ses pièces d'or et qui se met en danger de mort. Il explique, parce que Jésus ne veut pas que je mente. Mais c'est qui alors? Mais pourtant, ces gens-là connaissaient certainement le nom de Jésus. Mais ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens qui nous entourent disent, mais j'ai jamais vu, j'ai jamais compris Jésus comme ça. Je l'ai vu comme on en parle à la télé, ou bien mon oncle qui est peut-être prêtre, ou mon oncle pasteur, mais qui lui-même est farfelu. Mais comme ça, je ne l'ai jamais vu. Et ils vont vouloir en savoir plus. C'est ça. Ils disent, mais finalement, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire pour que tu sois aussi en recherche de le voir? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Vous savez, tout ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'inverse aussi. qu'est-ce que la Sulamite a de plus que les autres, parce que Salomon était arrivé à 1000 femmes. Donc ça nous montre que nous, les humains, malgré le fait que nous avons plusieurs amours, l'amour de ceci, l'amour pour cela, il y a un amour qui est le plus merveilleux, c'est l'amour pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien, elle va expliquer qu'est-ce qu'il a de plus, ce que nous allons lire.
Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem.
Amen, amen, amen. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. La fille de Jérusalem, elle fait la description. Bien-aimé, aujourd'hui, quand quelqu'un nous pose, mais pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le seul à avoir donné sa vie pour moi. Jésus a quitté le ciel, où il était le roi des rois, où il est le roi des rois, où il était dans son règne, assis sur son trône. Là où il n'y a pas de problème d'électricité, ni de chaleur, ni de froid, et il est descendu sur une terre sale, difficile, tout ça pour moi. C'est ce qui explique que je crois en lui. Mais pourquoi Jésus? Parce qu'il est ressuscité. Les gens disent, les premiers chrétiens disaient, le Seigneur est ressuscité. L'autre répondait, il est vraiment ressuscité. C'est pourquoi Jésus, parce qu'il est le seul ressuscité. Or, moi, si je suis en train de chercher Dieu, je cherche Dieu parce que j'ai un souci de vivre éternellement. J'ai un souci d'éternité. C'est le souci qui anime tous les humains, quels qu'ils soient. Même les méchants, ils ont un souci d'être méchants éternellement. Ils ont un souci de faire des bêtises éternellement. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Personne ne veut que ce qui lui donne une forme de plaisir s'arrête. Personne ne veut cela. Et donc, c'est cette éternité que je cherche. Or, la personne qui m'en donne l'assurance, c'est seulement celui qui est ressuscité, qui est vivant jusqu'à aujourd'hui, éternellement. Voilà. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus aime les mauvais. Alors que tout le monde considérait Zachée comme mauvais, infréquentable, Jésus est entré chez lui. Mais pas en cachette, comme Nicodème pendant la nuit pour visiter Jésus. Pas comme Pierre, qui a fait semblant de ne pas très bien être avec les chrétiens non-juifs. Mais au vu et au su de tous, alors qu'il était entouré de la foule, c'est en ce moment-là qu'il va chez Zachée. Donc tout le monde voit qu'il va dans une mauvaise maison. Comment ne pas aimer un tel Seigneur qui, lorsqu'il voit la dame au temple, ayant le dos courbé, Jésus dit, femme, ah, j'aime beaucoup cette phrase-là, femme, tu es guérie. Et il lui impose les mains, le dos se redresse. C'est magnifique. Les gens disent, mais nous n'avons jamais vu cela. On dépose le paralytique à ce pied et dit, mon ami, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais les gens veulent discuter, ils disent, mais afin que vous sachiez que j'ai le droit de pardonner les péchés, eh bien, lève-toi et marche. Le monsieur se lève et se marche. Mais si je devais citer pourquoi Jésus, mais je n'en finirai pas, mais j'en ai fait déjà des prédications. Il est extraordinaire, il est merveilleux, il est tel que la bien-aimée est en train de décrire là. Il est le seul à avoir une tête d'or en même temps, les jambes, les colonnes, il est dit, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur quoi? Sur des bases d'or pur. Est-ce que vous vous souvenez de la statue de Nebuchadnezzar, de Babylone? C'était comment? La tête était en or, mais les jambes étaient en quoi? Et les pieds étaient en quoi? En argile, mélangé avec du métal. Zéro. Mais là, nous voyons, les pieds, c'est de l'or. Les jambes, c'est du marbre. Nous sommes dans la gloire et la solidité. La Soulamite dit, mais comprenez-moi, voilà la personne que j'aime. Donc laissez-moi le suivre. Moi, j'ai un principe, je dis, prenez tout, laissez-moi Jésus. Voilà. Laissez-moi Jésus. C'est mon objectif. Ça doit être l'objectif de tout chrétien. Jésus doit être notre objectif. On ne doit pas louper un bien-aimé de cette dimension-là. Voilà la défense de la Sulamite auprès des gens qui lui posent la question. Mais pourquoi lui seul? Il a de plus, mais il a tout de plus que tout. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Psaume 45. Et Dieu t'a béni pour toujours. Ben ce chant-là, nous devons le chanter avant que ce livre ne finisse. Donc c'est pour mardi prochain. Pour aujourd'hui, nous avons un chant « Amoureux de mon âme hein, » que nous allons apprendre. Oui, question.
Il y a deux questions. Il y a l'internaute demande, il dit « L'amour, on voit l'amour de Dieu dans la patience à attendre la repentance de l'homme. » Mais quand dans la Bible on parle d'irritation, de quoi parle-t-on? Est-ce le fait de résister à la repentance?
La Bible parle, je n'ai pas compris.
Lorsque dans la Bible parle d'irritation, de quoi parle-t-on?
Où dans la Bible?
Bon, l'internaute n'a pas mis le verset, la référence, mais parle de...
Ah, oui, bon, moi je précède, je dis que tout simplement que Dieu est en colère. Romains 1 nous dit que, au verset 18, la colère de Dieu est sur tous les hommes qui rendent captive la vérité. Oui, mais il est en colère parce qu'il est le Dieu de vérité, mais il est aussi le Dieu d'amour. Donc il y a tout ça en lui. Il n'y a pas de problème.
Il y a une autre question qui est hors sujet. Donc l'internaute demande, dit à chaque fois, elle a une amie, à chaque fois qu'elle envoie l'argent à ses parents, à sa mère qui est en Afrique, elle a toujours des attaques spirituelles la nuit nocturne. Est-ce qu'elle doit continuer à faire le bien ou stopper à envoyer l'argent?
Nous ne pouvons pas nous arrêter de faire le bien. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous faisons le bien par notre propre logique ou bien parce que le Saint-Esprit nous conduit? Donc parfois, nous pouvons faire le bien dans une logique d'esclavage familial. Donc ça, ce n'est pas bon. Nous devons faire le bien parce que nous aimons les gens, pas parce qu'ils nous y contraignent. Parce que nous n'avons qu'un seul maître, c'est le Seigneur. Si nous faisons le bien comme dans une forme de contrainte, ça veut dire que nous mettons ces gens-là au-dessus de Dieu. C'est normal qu'ils aient une influence sur nous. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit dans l'amour à faire le bien, il n'y aura aucun impact sur nous. Donc la personne doit revoir comment sa manière de faire le bien. Et il n'y aura plus de problème après.
Alors, dans Genèse 6, 3, nous dit « Les jours de l'homme seront de 120 ans ». Psaume 90, au verset 10, nous dit « Les jours de nos années se lèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans ». Comment comprendre ces différences?
Les 120 ans, c'est la limite, et les 70 ans, 80, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. L'espérance, comment statistiquement on appelle ça, l'espérance de vie, c'est ça le terme, hein? Voilà, ben c'est ça. Donc 120 ans c'est la limite, l'autre c'est l'espérance, c'est la moyenne. Voilà, ben puisque j'aurais dû penser, on devait répéter le chant avant, mais comme on n'a pas fait, donc ça sera la fois prochaine. Donc informez-vous, amoureux de mon âme sur internet, donc dimanche et mardi plutôt, prochain, nous allons chanter l'amoureux de notre âme, que les jaloux se taisent. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir appris ces belles choses que nous venons de lire. C'est extraordinaire ton amour. Tu es extraordinaire, Jésus. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni pour toujours. Sois exalté, magnifié au siècle des siècles. Merci de nous entraîner dans cet amour. Nous ne voulons plus freiner cela par des raisonnements humains, par une logique légaliste. Mais nous voulons nous laisser porter comme les bébés se laissent porter par leur maman. Merci, merci pour ces enseignements qui nous amènent plus près de toi encore. Merci de nous rapprocher davantage. Que notre amour pour toi soit sans limite, comme ton amour pour nous, Seigneur. Que nous puissions plus regarder à la dépense. La bien-aimée acceptait qu'elle se fasse frapper parce qu'elle cherchait son bien-aimé. Que nous acceptions les tribulations, mais que nous ayons la foi que tout est sous contrôle, parce que celui qui nous aime, c'est celui-là aussi qui est le Tout-Puissant. C'est celui qui est le gardien d'Israël. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.